Bonjour à tous, vous êtes dans votre émission Sortez, il est 17h. Vous êtes sur Radio Campus 99.5, nous sommes le mercredi 20 novembre et aujourd'hui comme invité nous recevons Henri Moindreau. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Mais surtout comme tous les mercredis c'est la chronique de Julien. Bonjour Julien.
Salut Chloé, salut Alexandre, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans les chroniques de Julien, on va parler de l'histoire du jeu vidéo parce que je me suis rendu compte que depuis le début de l'année, j'ai eu l'occasion de vous parler du The Event et de la PGW, mais c'est un petit peu la conséquence aujourd'hui du jeu vidéo et de ce milieu du jeu vidéo, mais je vais un petit peu vous raconter son histoire parce que ça commence quand même il y a assez longtemps, moi donc j'ai fait mes recherches par rapport à ce sujet, et donc j'ai découvert la première trace, on va dire ça comme ça, de jeux vidéo en 1950. Tu te doutais, Chloé, que c'était aussi vieux que ça? 1950 ?
J'en avais entendu parler.
Ah ouais, t'es trop forte. Donc 1950, la Bertie the Brain, qui est donc la première machine qui était dédiée aux jeux vidéo, donc elle mesurait quand même 4 mètres de haut, elle pesait plus d'une tonne, et le jeu qu'elle proposait, c'était le Morpion. Alors, d'un point de vue technique, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même, une machine aussi grosse pour jouer au Morpion, mais c'est le début, forcément. Et là, on fait un petit bond dans le temps, parce qu'on arrive déjà en 1968, parce qu'il y a un inventeur qui s'appelle Ralph Beer, et on lui doit sans doute beaucoup de choses et on le connaît pas forcément parce qu'il a créé ce qui s'appelle la Brown Box, et donc c'est ce qu'on peut considérer comme la première console de salon. Il a une idée toute bête, il s'est dit au lieu de prendre des ordinateurs qui à l'époque étaient énormes, qui étaient très compliqués à avoir, il s'est dit si on faisait juste une petite machine qu'on reliait à notre télé et puis on jouait comme ça. Et c'est de là qu'est partie son idée. Et son idée était tellement bonne qu'il y a une entreprise qui s'appelle Maniavox qui, en 1972, l'a recrutée pour faire de son prototype une console et la vendre au grand marché. Ils l'ont donc appelée la Maniavox Odyssey. Et donc, c'est la première console de salon qui a été commercialisée. À l'intérieur, il y avait comme jeu, tenez-vous bien, du tennis, du ping-pong, il y avait même un labyrinthe, il y avait du football américain, il y avait même une roulette. Alors, c'était assez basique, forcément, c'était très pixelisé, c'est le début. Mais cette console s'est quand même vendue à 350 000 exemplaires dans le monde. Donc une belle réussite dès le début et qui montre le début des consoles de salon. On va continuer à parler de nouveautés. On va parler en 1971 du Computer Space, pardon, qui est donc la toute première borne d'arcade. Donc elle est sortie en 71 et a été vendue à 1500 exemplaires en une année. Et les créateurs de ce Computer Space ont créé l'entreprise Atari, qui existe toujours et qui est très très connue dans le milieu du jeu vidéo. Et ils ont créé d'ailleurs en 1972 le jeu Pong que tout le monde connaît. Donc une des premières inventions qui a démocratisé la borne d'arcade et qui a fait rentrer le jeu vidéo dans la sphère où on la connaît aujourd'hui. Également le début des compétitions de jeux vidéo, parce que sans doute vous avez entendu parler des compétitions de jeux vidéo qui se développent de plus en plus. C'est un énorme milieu. Je pense par exemple à Bercy, la Corotel Arena, qui a accueilli il y a moins d'un mois les finales de League of Legends des World, donc une compétition mondiale sur un des plus gros jeux e-sport. Et donc la première compétition a eu lieu en 1972. C'était sur Intergalactic Space War Olympic, qui était donc un petit jeu. Il était pas ouf, on va pas se mentir. C'était un petit jeu, c'était le début.
Pourquoi
des jeux
tu
vidéo.
Tu craches dans la soupe comme ça.
C'était un peu nul quand même. Enfin, tu regarderas des images, si t'en trouves, c'est pas. Ouais, bof. Et donc, c'était sur le PDP-1, qui est donc un énorme ordinateur. Donc voilà, c'était assez compliqué d'y jouer. Et donc maintenant, on va donc parler des consoles de salon. Parce que, entre 74 et 77, forcément, avec l'arrivée de la fameuse console de salon qu'on a parlé juste avant de notre inventeur préféré, Ralph Beer, de nombreuses consoles sont sorties. Et notamment, la Coleco de Telstar, qu'on connaît pas forcément, qui n'est pas la plus connue, mais qui est la première console à avoir dépassé la barre symbolique des 1 million d'exemplaires vendus. Donc ça, c'était en 1977. Donc encore une preuve que le milieu a grandi au fur et à mesure. Ensuite, on va parler d'une innovation qui arrivait un petit peu plus tard, parce que on achetait notre console, on avait nos jeux dessus, mais c'était terminé. Si on voulait jouer à d'autres jeux, c'était compliqué. Et bien, des gens ont pensé à développer une console, par exemple une des plus connues avec cette innovation est l'Atari 2600, avec des cartouches interchangeables, comme on connaît aujourd'hui, qui permettaient tout simplement de changer de jeu sur sa console. Cette technologie a vu apparaître des jeux super connus comme Space Invader ou encore Pac-Man. D'ailleurs, si on veut parler de Space Invader, il arrivait donc sur les bornes d'arcade en 1978, c'est ça qui a démocratisé complètement les bornes d'arcade comme vous les avez sans doute connus. Et en 1977, d'ailleurs, on va revenir un tout petit peu dans le temps, l'arrivée d'une marque que t'aimes beaucoup, Chloé, d'une entreprise japonaise qui fait des
Nintendo.
Jeux vidéo. Nintendo, exactement. On dirait que t'étais au courant, je sais pas comment.
Oh, c'est incroyable,
c'est
fou.
Oh là là, les hasards. Et donc en 1980, Pac-Man, donc on en parlait tout à l'heure, Pac-Man arrive en 1980, et encore une fois, 1980, année marquée par un des plus gros tournois, à l'époque le plus gros tournoi de jeux vidéo, sur le fameux jeu Space Invader, qui a quand même rassemblé plus de 10 000 participants. On est en 1980, 10 000 participants en physique sur un jeu vidéo. C'est énorme, et c'est gigantesque. Je pensais pas qu'il y avait, dès 1980, des tournois aussi gros de jeux vidéo. Donc ensuite, le milieu a continué de grossir. Je vais pas faire la liste de tous les jeux vidéo qui sont sortis forcément, mais j'ai quelques dates comme ça. Par exemple, 1981, c'est mieux.
Oui, ça paraît un peu vieux,
c'est un peu vieux, ouais. Arrivée de Mario, les gens ont découvert Mario pour la première fois en 1981. 1982, premier magazine en France consacré entièrement aux jeux vidéo. Et encore une fois, il s'appelait Tilt, ce magazine. Et encore une fois, j'étais surpris que ce soit aussi ancien. Donc voilà, 1984, un des jeux qui a été pendant très longtemps, et encore il y a quelques mois, le jeu le plus vendu de l'histoire. Des petites briques de couleurs. Tetris. Et ouais, 170 millions d'exemplaires vendus. À l'heure d'aujourd'hui, il a été dépassé il n'y a pas si longtemps par Minecraft, mais on va y revenir. Mais voilà, un jeu énorme. Donc ensuite, bien évidemment, beaucoup de choses sont développées. On peut noter en 1986 la création d'Ubisoft, qui est le leader français du jeu vidéo, une très belle entreprise et qui représente très bien la France à l'étranger. Mais là, je vais vous parler surtout maintenant de jeux un petit peu plus récents et qui ont marqué l'histoire des compétitions sur les jeux vidéo. J'ai envie de noter quand même StarCraft, qui est sorti en 98, l'un des pionniers des compétitions, des vraies compétitions en ligne. C'est là qu'il s'est développé les compétitions en ligne. En 1999, la sortie de la série Counter-Strike, qui est le FPS, donc c'est-à-dire c'est un jeu de tir en équipe, c'est le jeu le plus connu.
À la première personne, d'où le FPS.
À la première personne, c'est ça. Full première personne, pas du tout, ça veut pas dire ça du tout. On enchaîne. Donc Counter-Strike en 99, il y avait encore beaucoup de compétitions sur Counter-Strike. Maintenant, c'est CSGO, parce que le jeu évolue forcément. Mais voilà, beaucoup de compétitions. Call of Duty aussi, 2003. Ou encore, donc on parlait tout à l'heure, League of Legends, qui est sorti en 2009. Encore une fois, beaucoup de compétitions. Donc beaucoup de jeux qui sont arrivés au fur et à mesure du temps et qui s'installent vraiment durement dans des compétitions. On pouvait penser, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que représentent vraiment tous ces jeux. Mais voilà, par exemple, la finale, je vous parlais tout à l'heure, la finale des championnats du monde de League of Legends qui s'est tenue à l'Accor Hotel Arena à Bercy, à Paris, il y a quelques semaines. Le stade, c'est pas un stade, mais la salle s'est remplie en à peine quelques minutes. C'est des tournois qui brassent des centaines de milliers, voire des millions de dollars de récompenses, de ce qu'on appelle le cash prize. Également en revenus publicitaires, tout ça, c'est un milieu qui est vraiment énorme, qui est en pleine expansion. On est parti de pas grand chose, on est parti de l'énorme machine qui faisait 4 mètres et qui pesait une tonne pour faire tourner le morpion en 1960, et aujourd'hui on arrive sur des petits PC qui permettent de faire tourner des jeux très puissants. Je voulais aussi parler un petit peu des conventions, des événements autour du gaming, car il y a deux semaines, c'est ça, je vous ai parlé de la PGW, de la Paris Games Week. Eh bien, écoutez, sachez qu'en 95, l'E3 a vu sa première édition. L'E3, c'est comme la PGW, mais en beaucoup plus grand, à Los Angeles, tous les ans, où il y a tous les éditeurs de présents qui présentent leurs nouveaux jeux, toutes leurs nouveautés. Donc ça date de 1995, ce qui prouve encore une fois, moi j'ai été étonné de tous ces chiffres, que le jeu vidéo, il est assez ancien, mine de rien. Et il continue de se développer. Par exemple, on a vu apparaître, alors j'allais oublier le plus important, Minecraft, le jeu le plus vendu de l'histoire, 176 millions d'exemplaires, sorti en 2009 comme League of Legends. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est un jeu, un bac à sable, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on est dans un monde ouvert, on peut faire ce qu'on veut, on a des blocs et on peut créer tout ce qu'on veut. C'est l'imagination pure qui prend le dessus, et c'est un jeu incroyable. Hein. Et donc je parlais donc du développement des jeux vidéo, parce que bon, on pense aux jeux vidéo, l'ordinateur, la console de salon, la PS4, l'Xbox et tout ça, mais on pense moins aux jeux sur téléphone, parce que bah, c'est du jeu vidéo aussi. Peut-être que vous jouez à Angry Birds, peut-être que vous jouez à ce genre de jeu sur téléphone, parce que bah oui, Angry Birds, il a dépassé 1 milliard de téléchargements en mobile en 2009. Donc ça fait quand même 10 ans, et donc ça fait plus de 10 ans que tous ces jeux sont présents sur nos téléphones. On n'y pense pas forcément le matin dans le bus quand on joue à un petit jeu, mais c'est du jeu vidéo qui se développe aussi. Pour terminer, il y a aussi tout, les youtubeurs, les streamers autour de cela. On avait parlé du The Event qui rassemblait beaucoup de streamers. Eh bien sachez que YouTube existe depuis 2015, Twitch depuis 2005, YouTube, autant pour moi, Twitch depuis 2011, et donc ces plateformes ont permis...
Il y a une nouvelle plateforme qui vient d'ouvrir, d'ailleurs.
Tu veux faire allusion à Mixer ?
Ouais.
Mixer qui existe depuis... ça fait quelques temps que ça existe déjà, Mixer. Quelques mois, années, mais c'est surtout qu'il y a de plus en plus de gros streamers qui arrivent sur Mixer. On pense à Ninja, notamment, qui était le premier streamer Twitch et qui est maintenant sur Mixer. Donc c'est la plateforme de Microsoft pour le streaming. Donc les plateformes évoluent, les streamers peuvent migrer. Et donc toutes ces plateformes ont permis à des gens, à des passionnés, de présenter leur jeu, de présenter ce qu'ils font, de présenter leur passion. Et ça, c'est quelque chose de très important qui a aidé le développement du gaming. Je vais terminer par les médias un peu plus traditionnels, par exemple les chaînes de télé. Il y a des chaînes de télé spécialisées pour les jeux vidéo, peut-être que vous en connaissez, par exemple la chaîne Game One. Chloé, t'aurais une idée en quelle année Game One a été ouvert?
C'est vieux, après les années 90, j'aurais dit dans les années genre 2003-2004.
Eh ben voilà. Écoute, c'est en 98.
Waouh.
Et je pensais pas que c'était aussi vieux, j'étais impressionné. Donc la chaîne Game One qui propose beaucoup d'émissions autour des jeux vidéo, de compétitions et tout ça, qui existe depuis 98. Également, pour terminer, sur un jeu que vous connaissez aussi, FIFA, le simulateur de foot, eh bien la chaîne L'Équipe a diffusé une compétition, c'était la première à diffuser une compétition de FIFA à la télé et puis en clair en 2016. Donc ça commence à remonter, ce qui prouve que les chaînes de télé s'intéressent de plus en plus à ce milieu. Et également en 2017, à partir de 2017, il y a une vraie compétition qui s'appelle l'E-Ligue 1, qui représente tous les clubs de Ligue 1, qui elle se déroule sur Canal Bein Sport, je crois. Et donc tous les clubs de Ligue 1 ont un représentant, et il y a un vrai tournoi qui se joue, et c'est diffusé toutes les semaines sur Bein Sport ou Canal Plus, je me souviens plus, je crois que c'est Bein Sport, et c'est une vraie compétition, et donc ça montre encore une fois le développement de cette filière et le poids qui pèse aujourd'hui dans l'industrie et dans le divertissement, qui est une place de plus en plus importante, et c'est pas à négliger, c'est quelque chose d'important, encore une fois, je me répète beaucoup, mais voilà, je suis content de présenter ça un peu et de vous montrer ce qu'on arrive à faire avec tous ces supports, toutes ces personnes qui arrivent maintenant à se rassembler pour des œuvres positives, comme le The Event, on y revient, mais ce genre de choses, il y a beaucoup d'événements caritatifs autour du jeu vidéo et qui permettent de récolter de l'argent pour des associations. Donc voilà. C'est la fin de cette petite chronique qui portait autour de l'histoire du jeu vidéo. J'espère que je vous en ai appris un petit peu plus. Si vous connaissiez pas tout le domaine, même ceux qui connaissaient, je pense qu'il y a quelques infos qui sont bonnes à prendre. Pour terminer, je dirais juste que je me suis inspiré d'une vidéo qui a été faite par Doc7, qui est un YouTuber. Je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations en détail. Et voilà.
Et merci Julien. Et puis du coup, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.
Et puis on va faire une petite pause musicale avec Alexandre que je n'ai pas cité tout à l'heure. Donc du coup, bonjour Alexandre.
Bonjour.
On part sur quoi ?
Alors j'ai choisi dans le premier album, je crois, de Cypress Hill, Black Sunday, la chanson A to the K. Allons-y.
You heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K.
A to the motherfucking C.
A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K. A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K. One, life has begun for the roughneck kid who would go to put niggas in check. 18, G's for the green I've seen. And it's for the time being, I'm picking nine while I'm about to get mine. And take two homies, three combined. Next thing you know, jump in the 6-4. Get out, cock the hammer, then kick down the dough. A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A to the
motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A
to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A to the K. to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
Couple niggas from the east side headed eastbound, looking for my pound all around town. Here comes a clown, I gotta hold my ground. Hear the slug coming when they come, you fall down. This different sound, that's what you found. That's what you get when you pop with the brown dog. This shit is coming to the mound. Latino from Cyprus, reps your compound. Shit gets deep, fake niggas gonna drown. What do you know?
What? Go around, come around.
It's from the pig and his punk pound. Hail to the king pig, or you get crowned. Or better yet, boy, you up like a fat J.
A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A to the K.
A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K. Motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A to the K.
A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K. Motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A to the K.
A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K. A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
A to the K.
A to the motherfucking K, homeboy. A to the motherfucking K.
Toujours en direct de votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5 et c'est l'heure de passer à notre invité. Donc rebonjour monsieur Henri Moindreau qui est venu nous présenter les Eésiades de l'image qui se passe du 22 au 24 novembre. C'est ça.
Oui, bonjour, c'est ça. Là vous avez tout bon.
Nickel, on commence bien déjà.
Parfait.
Donc je vais vous laisser un peu vous présenter.
Oui, donc voilà, bah, j'ai été président pendant 21 ans du MIST. MIST, c'est l'association, le club photo de Notre-Dame-d'Oué qui organise les Eésiades. Alors MIST, ça veut dire magie de l'image et du son en Touraine. Voilà, nous sommes à Notre-Dame-d'Oué depuis 2006 et nous organisons les Eésiades de l'image. Cette année, c'est la 10e.
D'accord.
Ce sont les 10 ans. Mais par contre, il y a quand même déjà 18 ans, puisqu'on a fait le premier spectacle audiovisuel en 2001, l'année d'ouverture d'Oésia. Voilà, donc Oésia, la salle de Notre-Dame-d'Oué qui nous a accueillis depuis ce moment-là.
D'accord. Et les Eésiades en tant que telles, donc les Eésiades de l'image, qu'est-ce que c'est ?
Alors qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est entre guillemets la fête de la photo, quoi, de la photo. Donc nous on regroupe 14 photoclubs de tout l'Indre-et-Loire. Bon, il y en a d'autres, mais forcément on peut pas accueillir tout le monde parce que bon, par un manque de place évidemment. Et puis on a tous les ans un invité d'honneur. Cette année l'invité d'honneur c'est Pascal Montagne, un photographe tourangeau. Et puis qui a fait plusieurs sujets, notamment sur les gilets jaunes, sur le GIGN, et il a été plusieurs fois en Iran aussi. Donc tout ça, il va nous le présenter lors de la conférence du vendredi soir.
On reviendra sur le programme en deuxième partie. Moi, j'avais une petite question, parce que ça s'appelle les Eésiades. Le Oé du début, ça vient de Notre-Dame-d'Oé, mais oui, qu'est-ce que veut dire Ziad à la fin?
Comme ça, c'est venu comme ça.
D'accord, parce que c'est poétique, c'est très poétique, je trouve.
Voilà, donc un jour, au départ, on faisait le festival de l'image et du son Touraine. Mm-hmm. Bon, on était plus axé sur concours de diaporama au niveau national. Donc on s'est aperçu qu'avec le numérique, l'arrivée du numérique, les auteurs ne se déplaçaient plus. Ils envoyaient à l'époque leurs CD. Et puis le jour où il y a l'arbitre des récompenses, il n'y avait personne. Donc on s'est dit, on ne va pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Donc on a voulu modifier complètement la formule. Et là, donc après, on s'était réunis, le comité d'organisation, puis ils nous ont dit, bon, on avait proposé ça aux IAD, Olympiades, voilà, des choses comme ça. Et puis, bon, ça a marché. Et puis la mairie était très, très satisfaite de notre choix. Donc bah, ça roule depuis 10 ans, quoi.
Donc du coup, c'est le MIST qui organise ça.
Tout à fait,
En partenariat avec la salle Oesia.
Avec la municipalité, voilà, qui met à notre disposition la salle Oesia, tout à fait.
D'accord. Vous expliquez que c'est de l'audiovisuel, mais de ce que j'ai remarqué, c'est plus porté photo que vidéo. C'est que cette année ou...
Non, c'est-à-dire que quand je dis audiovisuel, moi, c'est plutôt diaporama.
D'accord.
Diaporama. On a pas... Quoique maintenant, on arrive à avoir un peu de vidéo dans les diaporamas. Avec les nouveaux logiciels qui arrivent, on arrive à mixer les deux. Mais disons que... Bon, là, il y a, comme je vous disais, 14 photoclubs, mais donc ça fait quasiment 300 photos. Plus les photos de l'invité d'honneur.
Oui, ça...
Donc c'est vraiment photo. Et d'invité d'honneur, justement, à des très grands formats.
D'accord. Mais c'est une volonté d'évincer un peu la vidéo au profit de la photographie ou c'est juste un choix qui s'est fait comme ça ?
Ah, c'est un choix qui s'est fait comme ça parce qu'au départ, le MIST, dans son appellation, MIST, c'est magie de l'image.
Oui.
Donc l'image et du son. Donc pour nous, c'était l'image. Bah, c'était l'image fixe. À l'époque, quand on a commencé au club, c'était de la diapositive. Mm-hmm. Donc voilà, c'était maintenant, c'est presque après histoire, pas loin, mais et puis maintenant c'est le numérique, et donc c'était, on n'a jamais, il n'y a jamais eu de, il y avait une section Super 8 avant, tout à fait au début du club, mais ça n'a jamais marché en section vidéo. On n'a jamais eu de beaucoup de demandes.
D'accord, mais si vous en aviez plus, vous en recevriez avec plaisir, je suppose. Si bah, ça rentre dans le...
Ah bah si on peut, oui, pourquoi pas un jour élargir à la vidéo, pourquoi pas.
Mais peut-être par contre,
là, il va falloir, au lieu de faire 3 jours, bah, il va falloir faire 4 jours ou plus, parce que bon, après, il va falloir avoir un programme très chargé, là.
Oui, il faut pouvoir montrer tout le monde sans exclure.
Voilà.
Bah, en parlant d'art photographique, justement, est-ce qu'il y a plusieurs types de photographies possibles ? Parce que je me doute que si vous avez des expositions, c'est qu'il y a plusieurs types type à montrer, c'est pas...
Oui, ben, c'est-à-dire que, par exemple, sur les expositions, je reviens toujours au club, on ne leur impose pas de thème. Mm-hmm. Donc chaque club vient avec sa série de photos sur un même thème. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu imposer un thème, parce que donner un thème et puis avoir quasiment 300 photos sur le même thème, ça va là, c'est lassant. Donc chaque club a un thème, et c'est là qu'on voit, moi j'ai vu cet après-midi, puisque juste avant de venir, j'étais à l'accrochage des expos, c'est encore varié, le public ne va pas être déçu, parce que il y a du paysage, il y a de la création, il y a du portrait, il y a plein de choses comme ça, il y a des photos de rue, enfin bon, il y a énormément de choses. Et c'est très très varié.
Bah, très bien. Et qu'est-ce que vous trouvez de plus intéressant dans la photographie par rapport aux autres arts en général ?
Ben disons que la photographie, c'est un instant de la vie, c'est juste figé un instant. Et bon, quelquefois, on passe à côté de choses intéressantes, et puis bon, quelquefois, on est là au bon moment, et c'est là justement, comme de grands photographes, comme Cartier-Bresson, et etc., bon, eux ont vraiment, avec l'œil, Douaneau aussi, bon, parce que bon, moi, c'est des photographes que j'adore, et là, c'est là qu'ils ont chopé le bon moment, c'est le bon cliché, quoi. C'était au bon moment, quoi.
Bah, ça peut permettre de mettre en avant des choses que l'on ne verrait pas d'habitude parce qu'on ne s'arrête pas dessus. Au moins, ça affiche, par exemple, on peut voir un... De ce que j'ai vu de certaines photos, en général, par exemple, un cône en silicone dans la rue peut avoir son intérêt en fonction de l'angle de la photo. Et je trouve ça intéressant de pouvoir le mettre en avant.
Oui, mais tout à fait. Nous, au club, on fait, quand on fait un peu ce genre de choses, c'est la photo un peu minimaliste ou la photo, on arrive à la photo du graphisme, des choses comme ça. Donc, mais... Quand j'étais président et puis qu'on proposait des expos comme ça, on me disait ben voilà, mais quand vous vous promenez dans la rue, quand vous faites une photo, c'est pas regarder uniquement devant vous à hauteur de vos yeux. Faut regarder à gauche, faut regarder à droite, en haut et en bas. Il y a toujours quelque chose, peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Donc c'est là, il faut pas hésiter.
D'accord.
Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, avec le, enfin, le support photo, c'est que ça garde une, l'imagination un peu des fois. Alors la vidéo nous l'enlève quelque part, parce qu'elle est sur un instant long, oui. Alors que là c'est un instant capté, la photo qui laisse place à où est-ce qu'on était, quelles étaient les émotions, tout ça.
Oui, voilà, ça rappelle plein de choses, plein d'émotions, ne serait-ce que par exemple les photos de voyage, bon, les photos de voyage comme ça, c'est vrai, on a l'imagination qui travaille après, c'est bon pour la tête, c'est... surtout quand on n'a plus de travail après, c'est...
Et est-ce que vous trouvez justement que les arts visuels sont assez représentés dans le domaine de l'art en général ? Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des festivals liés à la photo, mais plus à la peinture, à la musique, au théâtre.
Oui, mais c'est, on voit que nous, on a un public assez fidèle tous les ans, mais c'est vrai que ça attire pas une expo photo, bon, ça attire pas forcément beaucoup de monde. Nous, à Tours, on a la chance, au château de Tours, d'avoir des supers expos. Avec le jeu de paume, bon, ça c'est intéressant. Ça, moi, je trouve que c'est une très bonne démarche d'avoir ces expos parce que ça permet à beaucoup de gens qui n'ont jamais forcément vu ce genre d'expo, et ou autrement, bah, ils font aller à Paris pour voir ces expos là, comme au salon de la photo ou à Paris Photo, des choses comme ça. Tandis que là, bon, bah, là c'est sur place et puis on peut avoir une vision du travail du photographe. Hein.
Et est-ce que vous pensez qu'il faut une sensibilité particulière pour pouvoir apprécier ce genre de travail ? Ou est-ce que la photo peut permettre à tout le monde de s'investir un peu dans l'art ?
Il faut avoir l'œil. Parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup de personnes, on a l'avantage au club d'avoir beaucoup de personnes qui ont vraiment l'œil, et puis un œil critique, mais pas critique, c'est critique constructive. Bon, ça sert à rien de démonter une photo si on dit pas pourquoi.
Oui.
Donc voilà. Donc on a l'avantage, je vous dis, au club d'avoir des personnes comme ça qui ont vraiment un œil et qui peuvent aller, comme ça, transmettre à d'autres adhérents la façon de voir une photo, de comprendre une photo, de lire une photo.
D'accord.
Eh bien, Dring Dring, je crois bien qu'il est l'heure de notre pause musicale. Alors, du coup, un album très appréciable de Bob Marley, Babylon by Bus. Babylon en bus, ça veut dire... Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était sa tournée française. Vous avez deviné, du coup, que Babylon... Voilà. Alors, du coup, on va mettre Punky Reggae Party. À tout de suite. We'll be right back.
toujours en direct de votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre, comme d'habitude, et de notre invité Henri Moindreau, désolé, j'ai encore un peu de mal, qui est venu nous parler, on le rappelle, des Oésiades de l'image qui se passent du 22 au 24 novembre à la salle Oésia à Notre-Dame-d'Oué.
Tout à fait.
Et bah du coup, exactement, ça va être l'heure de passer au programme. On commence par quoi le vendredi du coup ?
Eh ben, le vendredi, on commence par le vernissage. Alors le vernissage, c'est l'occasion d'accueillir des personnalités qui viennent nous voir. Et c'est l'occasion aussi, c'est le début des expos en fin de compte. Et l'occasion de boire un verre tous ensemble pour commencer comme il se faut ces Oésiades.
Mais qu'est-ce que c'est un vernissage du coup ?
Vernissage, ben, je dis, c'est l'occasion de trinquer ensemble, quoi. C'est une coutume et que c'est très agréable puisque ça nous permet de rencontrer beaucoup d'adhérents des clubs qui exposent. Ça nous permet de rencontrer aussi nos sponsors qui nous font le plaisir de nous aider aussi financièrement pour monter ces Oésiades. Ça nous permet aussi d'accueillir bien sûr les élus et la municipalité Notre-Dame-d'Oué. Donc c'est un moment convivial où tout le monde se rencontre et on peut échanger, quoi.
Oui, voilà, la première rencontre, le premier partage de points de vue afin de pouvoir mieux comprendre plus tard les œuvres des autres, en fait.
Oui, voilà, exactement, ça permet. Et puis chacun a le verre à la main, c'est plus facile et c'est sympa de discuter devant les photos de toutes celles qui sont dans les coursives d'Oésia.
D'accord, et du coup, ce sera à quelle heure l'ouverture ?
Le 18h30. 18h30. Nous, on y sera depuis quasiment le matin, mais
oui.
Et puis donc 18h30, ce sera le vernissage.
Et ensuite, je vois qu'il y a la soirée conférence.
Voilà, donc 18h30, et dans la foulée, on reste sur place, bien sûr, et à 20h45, il y a une soirée conférence de Pascal Montagne, photographe tourangeau, qui va nous expliquer le travail qu'il réalise, soit en reportage ou soit en voyage quand il va en Iran.
D'accord, ça dure à peu près combien de temps ?
Alors là, il y aura, disons que ça va durer à peu près jusqu'à 23h. La soirée, ça va être coupée en deux parties, parce qu'il faut bien reprendre des forces à l'entracte. Alors, à l'entracte, comme de tradition, nous faisons du phare breton.
Ah.
Je fais la pub pour le phare breton, parce que ça fait, depuis qu'on fait les Oésiades, ça fait 10 ans qu'on fait du phare breton, et 10 ans que les gens nous demandent à l'entracte du phare breton. Voilà.
Et c'est qu'il plaît. C'est du bon phare breton.
Rien, ne serait-ce que rien pour le phare breton.
C'est ça. Si vous êtes aveugle, c'est pas grave. Pas besoin des images.
Voilà. Donc,
c'est du bon phare breton.
Et là, la conférence se fera en deux parties. Une partie sur son travail avec la cellule du GIGN sur Tours. Enfin, sur Tours. Et la deuxième partie sur son voyage en Iran.
D'accord. Donc ça, c'est ce qui se passe le vendredi. Et le samedi, l'ouverture par quoi, quand ?
Alors le samedi, 14h à 14h, de 14h à 17h, il y aura des ateliers, un atelier diaporama et un atelier prise de vue studio sur la scène d'Oésia. L'écran sera remonté et là, il y aura trois studios d'installer où les gens qui se seront inscrits pourront venir soit faire des photos des modèles qui sont présents ou soit faire des photos de leurs enfants s'ils viennent avec. Voilà.
D'accord, donc ouvert à tous du coup.
Ouverture à tous sur réservation.
Sur réservation.
Parce que donc il y a un créneau de 3h, donc on ne peut pas l'étendre puisque le soir il y a encore quelque chose de prévu dans la soirée, forcément.
Et il reste des places pour s'inscrire ?
Quelques créneaux, exactement. Oui, il reste quelques places, mais il faut se dépêcher parce que s'il n'y en aura pas pour les plus gourmands.
Et pour nos auditeurs qui nous écouteraient, comment on fait pour s'inscrire ?
Alors, il faut aller sur le blog du MIST, MISTphotoBlogspot, c'est ça. Et puis, donc là, il y a une adresse mail. Donc, vous inscrivez, vous envoyez un message et là, votre inscription est prise en compte. Si.
Il reste de la place.
Voilà.
Donc, dépêchez-vous. Deuxième partie de soirée projection.
Alors, deuxième partie, à la fin de la soirée, oui, c'est projection de diaporama. Après sélection, parce que nous avons sélectionné, visionné 46 diaporamas et nous en avons retenu 24. pour agrémenter cette soirée, dont 10 diaporamas de création uniquement des adhérents du MIST. Voilà, donc là ça va être assez varié également, il y a de la poésie, il y a de la création, il y a du paysage, voyage, enfin il y a beaucoup de thèmes différents.
Histoire de pouvoir satisfaire tout le monde, du coup.
Tout le monde, exactement, comme on dit, il en faut pour tous les goûts.
Mais du coup, vous parlez de « on sélectionne », mais qui est « on » ?
On sélectionne, donc c'est un comité, on demande à plusieurs personnes. Là, cette année, pour la sélection, il y avait 5 personnes. Je ne dis pas « on était » parce que moi, j'étais le projectionniste, c'est tout ce que j'ai fait. Et donc, il y avait plusieurs personnes, il y avait 2 photographes, il y avait un diaporamiste, il y avait un peintre et un candide. Voilà, donc on avait 5 personnes, de façon, et chaque personne avait sa liste, sa feuille, et pointait ses appréciations après la diffusion de chaque montage.
D'accord. Et pourquoi le support diaporama ?
Ben parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les débuts du club. Le club a été créé en 1981, et en 1981, ça a été créé avec la section diaporama. Donc on a continué tout ce, comme ça, et après, depuis 2002, on est tous passés en numérique.
Un peu le fil rouge de l'événement, du coup, les diaporamas.
Depuis le départ, c'est le diaporama, le fil rouge de notre manifestation des Oésiades, c'est ça.
Et du coup, c'est de quelle heure à quelle heure, la soirée projection ?
20h45, à peu près 23h. Et j'ai oublié le vendredi soir. Un truc très important, comme ce sont les 10 ans des Oésiades, nous faisons un petit gâteau anniversaire à la fin.
Super.
Alors, tous ceux qui veulent manger un petit bout de gâteau doivent rester à la fin. Et donc, voilà.
En espérant qu'ils restent pour autre chose que le phare et gâteau, quand même. Le principe.
Oui, il faut qu'ils viennent d'abord pour le spectacle.
C'est plus intéressant.
Oui, tout à fait, exactement. Après, si ça leur a plu, il faut qu'ils nous le disent, ils auront un petit morceau de gâteau à ce moment-là.
C'est ça, du gâteau contre un avis.
Voilà, on va dire ça, voilà.
Eh bien...
Non. J'avais une question.
Ah non, je n'ai pas de question. Non.
Donc
non,
on va terminer avec le dimanche maintenant.
Le dimanche. Alors, le dimanche, c'est la 16e foire au matériel photo. Donc, nous allons accueillir 20 vendeurs professionnels et particuliers qui ont du matériel à vendre ou d'autres à acheter. Et donc, il y a un échange qui est là. Et puis, nous ouvrons les portes à 10h. Et ce sera de 10h à 18h.
Et c'est pour qui ? Tout le monde peut venir ?
Tout le monde, c'est ouvert à tout le public. On a pratiquement 400 personnes en visite le dimanche, ce qui est quand même pas mal. Plus de 600 sur tout le week-end. Et puis le dimanche, ça se finit autour d'un verre aussi, puisque nous récompensons le diaporama arrivé premier, puisque nous faisons voter le public le vendredi, le samedi soir. Le public, on leur donne des feuilles, et donc on fait les totaux, et donc on désigne un premier, un deuxième, forcément. Et puis il y a aussi un prix attribué, ça aussi c'est le public qui vote, pour le meilleur club. Enfin, le club qui est choisi par le public pour la qualité de son travail.
D'accord. Et l'année dernière, c'était qui ?
L'année dernière, ça c'est une bonne question, c'était Avoine, le photoclub d'Avoine.
D'accord.
Et puis, cette année, ils sont toujours aussi présents encore, là, parce que je les ai vus tout à l'heure. Et puis, cette année, oui, ils remettent leur titre en jeu. Puis là, cette année, il n'y en a plus 12, il y en a 14, 14 clubs. Donc ça va être, le choix va être encore un peu plus dur.
Maintenant, j'ai quelques petites questions par rapport à vous et ce festival. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le festival, dans ce festival, dans le sens où est-ce que vous avez par exemple une image en particulier qui vous revient et où vous vous êtes dit au moment du festival, elle est magnifique ?
Une image de... j'ai un souvenir très récent, c'est des Oésiades de l'année dernière. Mm-hmm. On avait un invité d'honneur, Philippe Body, qui est un photographe à Tourangeau aussi. Il était là et il nous a fait une conférence le vendredi soir, mais alors un truc de fou, mais vraiment à tel point que plusieurs personnes du club, plusieurs adhérents du club ont été le voir pour faire des stages chez lui.
Waouh !
Ouais, c'était mais alors c'est expliqué d'une façon très 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 simple, mais vraiment très très intéressante.
Eh bien, super. On va pouvoir passer et terminer avec les petites infos pratiques, rappeler un peu tout, par exemple, le prix, comment vous contacter, comment se rendre à la salle aussi.
Alors la salle de Wizir, c'est pas compliqué, hein, c'est une direction à la Châtre, à la RD 29, voilà. Et donc la soirée de vendredi, c'est entrée 5 euros. Mm-hmm. Le samedi, entrée 5 euros également. C'est la moitié d'une place de cinéma.
Et pour une longue soirée bien animée.
Voilà, exactement, oui, avec beaucoup de choses à voir, aussi bien dans la salle que dans les coursives de Wizir.
Et comment vous contactez-vous pour avoir plus d'informations, justement ? On peut vous retrouver sur les réseaux, par mail ?
Sur Facebook, à la page du MIST sur Facebook.
D'accord.
Et puis, sur le blog du MIST, mon numéro de téléphone.
Si c'est pour vous contacter, après on va peut-être rester sur les réseaux, ce sera plus
simple.
Oui,
parce que bon, je veux dormir un petit peu là.
Oui, voilà, je pense que avec déjà toute l'agitation qui va arriver.
Oui, voilà, déjà il sonne beaucoup. Hein. Depuis ce matin, ça commence à venir comme il faut, donc on va peut-être se calmer de ce côté-là.
Je n'en doute pas. Bon, on rappelle une dernière fois les informations. C'est donc les Oésias de l'image à la salle Oésias à Notre-Dame-Douai. Et c'est du 22 au 24 novembre, c'est ça.
Exactement.
Ah, j'arrive. Ouais, 3 sur 3.
Formidable. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Bah, merci à vous d'être venu partager ces Oésiades.
Mais normal, hein.
Et puis maintenant, ça va être l'heure de se quitter.
Maintenant, on vous attend à Oésia.
Ah oui, bah oui. En espérant bien qu'il y ait du monde.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Ça va être l'heure de terminer cette émission en passant avec la dernière pause musicale et l'agenda, non ?
Exactement. Alors, Asaf Avidan, The Study on Falling de l'album éponyme, le dernier sorti. Je vous le conseille grandement. À tout de suite.
Hold it.
absent, absorbé, abstrait, ailé, pensif, poète, songeur ou songe creux, l'agenda du 37, c'est maintenant dans Sortez. Place Anatole France aujourd'hui, véritable patinoire en plein air avec 1000 mètres carrés de glace et sa piste de luge. Venez vous exercer et partager un beau moment entre amis ou en famille. À 18h, salle Hockegem, 15 place de Châteauneuf à Tours, concert des grands élèves des classes de bois du Conservatoire de Tours. Amboise, cette fois-ci, mais toujours à 18h30, atelier dégustation de vin bio au Petit Vrac, 123 rue Nationale. What you gonna do? 18h30, toujours et encore, salle Télème à la Fac des Tanneurs, à Tours, portrait balzacien. Vous pourrez écouter la conférence de Régine Bondery. Le propos portera sur l'écriture du portrait dans la comédie humaine. À 19h30 à la librairie La Boîte à Livres, 19 rue Nationale à Tours, rencontre avec Annie Dupré pour son roman Complicité animale aux éditions du Cherche Midi. Pour finir à 20h30, Bruno Salomon à l'Oesia, rue des Fils à Notre-Dame-d'Oé. C'est le premier one-man show d'anticipation. Nous sommes dans une émission de télévision du futur. Bruno Salomon y joue tour à tour un animateur mégalo, des chroniqueurs ou des invités de choix. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Je vous laisse avec une artiste que j'apprécie énormément, c'est Amy Winehouse. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Let you outside us. Am I new but do? Why you were thinking I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. So small, discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You said surpass your rejection.
Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.